Bonjour et bienvenue dans les entrevues de Mel, l'émission qui donne la parole à des personnes au parcours hors du commun, qui partagent le témoignage de personnes extraordinaires. C'est la 10e émission, on termine cette saison radiophonique sur le témoignage que Patrick porte sur la maladie OH, vulgairement alcoolique. Bonjour Patrick.
Salut Mel. Ouais, la 10e.
Ancien alcoolo.
Ouais, c'est ça.
C'est la 10e. Tu gagnes le combat contre Goliath.
Ouais, c'est pas peu dire. Ouais.
C'est pas peu dire, c'est vraiment l'image qu'on peut donner, c'est énorme. Et c'est ça, en fait, qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que je t'ai invité dans toutes ces émissions. Tu retourneras pas sur le ring, c'est ce que tu dis souvent.
Je ne remènerai pas le combat deux fois.
Ouais, c'est un combat qui est difficile, qui vaut le coup d'être mené quand même.
Ah bah ouais, vers la résilience.
Hein. Allons vers la résilience, ouais. Et c'est le thème de cette émission. Le 15 juin, tu as fêté 11 ans d'abstinence ce mois-ci.
Ça.
Joyeux anniversaire.
Merci Mel.
Quand tu es sortie de post-cure, donc en août 2015, si c'est ça, tu dis à ta maman que tu as un an et que tu apprends à marcher.
Ah ouais, complètement. Bah, en fait, 15 juin 2015, c'est la délivrance, c'est les 11 ans là, qui viennent de passer, effectivement. Et quand on est aux alentours du 12 août 2015, je sors de la post-cure dont on a parlé la dernière fois. Mmh. Et c'est ma mère qui vient me chercher, c'est la seule personne de mon entourage qui me reste à ce moment-là, hormis ma fille, et que je ne vois pas beaucoup. Et effectivement, quand ma mère vient me chercher au château de Longzeg, donc c'est le centre de post-cure du côté de Montauban. Elle découvre un nouveau Patrick.
Une renaissance, on peut parler de renaissance.
Exactement.
Parce que tu renais de tes cendres. Moi, j'ai cette image-là, c'est peut-être pas la tienne, mais j'ai vraiment cette image de quelqu'un qui renaît de ses cendres, en fait.
En tout cas, pour les gens qui nous écoutent, et enfin, je veux bien donner ma vie passée à celui qui la veut et échanger contre une vie qui serait plutôt dans un champ de pâquerettes. Mais de toute façon, on a parlé d'enfer. Et le feu, les cendres, enfin, c'est vraiment pas joyeux. Et justement, ce jour-là, quand ma mère vient me chercher, en fait, je lui dis, et c'est l'image que moi j'ai de moi-même, en fait, je lui dis, j'ai un an et je sais marcher. Et maintenant, il va falloir qu'on m'accompagne.
C'est ça.
Je commence comme s'il fallait que, à un moment aujourd'hui, les jeunes qui sont en plein dedans là, ou qui vont y être, on leur parle de passer le bac. Quand t'as un an, t'es loin de tout ça. Mais il va falloir que je refasse ça très vite. Il va falloir que je me reconstruise. Et je dis à ma mère, ça y est, j'ai un an, je sais marcher. Et on voit bien l'image d'un enfant qui a un an, qui est innocent de tout et qui est fragile et dont il faut prendre soin et
accompagner dans la marche.
Ouais, voilà, exactement.
Quand une personne comme toi atteint autant d'années d'abstinence, on parle donc de résilience. Ma définition, à moi, celle de Mel, moi j'ai la vision de la résilience, c'est de faire de son traumatisme une force. J'ai cherché la définition en psychologie, donc du Larousse, et le Larousse dit « c'est l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques ». Ta définition à toi, ça serait laquelle? Ta définition de ta résilience à toi?
Déjà, j'aime beaucoup ta définition et donc je reprendrai la même. Et je vais être un petit peu plus creux que toi. Je suis en forme, tu vois, là, on est en train de parler d'un parcours de vie qui a été difficile. Et je pense que les auditeurs qui nous écoutent, ils n'ont pas envie qu'on passe par des fleuritures et des petites parenthèses gentillettes.
Non, c'est pour ça que je t'invite.
Ouais, donc pour moi, la résilience, c'est sublimer le mal, c'est-à-dire transformer tout ce qui m'a détruit, c'est de le transformer en quelque chose de positif. Et là, le raccourci, il est très simple, c'est entre Patrick, qui est dans la souffrance, et Patrick aujourd'hui, on avait un alcoolique, et aujourd'hui, on a un mec qui a monté une association, qui est président de l'association Résilio, et cette association, elle fait de la prévention et de l'accompagnement pour les personnes qui sont concernées par cette maladie, qui est l'alcoolisme. Et tu l'as très bien dit tout à l'heure, vulgairement, nous sommes des alcoolos, des picolos, avec tout ce que ça induit. Et Pour moi, la résilience, je vais être vulgaire, mais c'est pas grave, ça me ressemble un petit peu quand je parle de ce sujet-là, c'est niquer son adversaire, c'est oui. niquer l'alcoolisme. Oui. Et en fait, être résilient de l'alcoolisme, c'est réussir, comme toute pathologie chronique, à moins vulgairement combattre la maladie, la comprendre, se soigner et mettre en place des outils qui font que la rechute ne gagnera jamais. Voilà.
C'est ça.
Parce que j'ai souvent parlé d'éthanol qui est le maître du jeu, j'ai souvent parlé de l'entourage, j'ai tout le temps parlé aussi de comment on pouvait parler de cette pathologie, mais on n'a pas cité souvent une princesse de l'alcoolisme, c'est Dame Rechute. Voilà.
Et oui.
Et Dame Rechute, elle, je vais rester poli quand même à la radio, on ne sait jamais s'il y avait des mineurs qui commençaient à boire à l'âge de 11 ans et qui devraient peut-être être réveillés. Quand même, il y a un moment, cette Dame Rechute, c'est une des adversaires dans la pathologie et être résilient, c'est réussir à ne pas succomber à la séduction de Dame Rechute.
Oui, c'est voilà. ça. Tu sors de ta dernière post-cure, donc en août 2015. Et justement, pour éviter Dame Rechute, quelle a été ta stratégie? Quels moyens, justement, tu mets en place pour lutter contre Dame Rechute, qui est là et qui se pointe, qui doit pointer son nez, j'imagine? Raconte-moi.
Alors, la stratégie, c'est un mot qui est excellent et je vais d'abord préciser aux auditeurs qui nous écoutent, qui sont concernés par cette pathologie, que pour atteindre la résilience, c'est un chemin de traverse. Il y a un moment, il ne faut pas se leurrer. Hein. Moi, je fais souvent la comparaison au cancer, dans la mesure où mon père est décédé de ça. Et donc, je l'ai vu dans sa souffrance à lui, dans sa pathologie. Ça a été long, alors qu'au départ, on nous avait dit que c'était un cancer foudroyant. Et effectivement, il y a une stratégie de soins. Il y a une stratégie d'accompagnement. Il y a une stratégie de comment vivre. Il y a une stratégie occupationnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire de ton quotidien.
Et oui.
Et je te rappelle que la dernière émission, nous avons essayé d'expliquer un petit peu le déroulement d'une post-cure, même si c'était bref.
Avec le planning,
exactement.
Bien établi,
exactement.
Réapprendre à vivre, réapprendre à avoir une temporalité, c'était ça.
Et
hein,
ben voilà,
qui
c'est
ressortait.
Ça, les outils, ouais. Tu vois, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire d'accord. remettre une temporalité, avoir un planning, ouais. etc. Et donc moi, aujourd'hui, pour répondre aux auditeurs de manière très simple et essayer de généraliser comment et quelle stratégie mettre en place pour se sortir de là, je pense qu'il y a quatre grands axes à ne pas négliger. C'est l'environnement dans lequel tu vas évoluer, c'est créer ou maintenir le lien social et familial,
oui,
ou professionnel. Il y en a un qui va aller avec, c'est de trouver cet équilibre avec toi-même et ta place dans cette société ou dans ta famille. Et puis après, et c'est sans doute un des trucs qui m'a le plus aidé dans ce parcours-là, c'est vers quoi tu tends et vers quoi tu trouves la joie, vers quoi tu es heureux et vers quoi ton quotidien va t'animer.
Qu'est-ce qui peut te nourrir?
Exactement, de quoi
autre
tu vas te
que
nourrir.
L'alcool.
Et ouais, et ton lien est très fort parce que ça me rappelle les émissions de départ et c'est ça en fait, on se nourrit, de quoi on se nourrit et par quoi on comble le vide et par quoi on comble le manque.
Voilà. C'est ça.
Évidemment, tout sauf un toxique. Du coup, pour répondre à ta question sur ces quatre temps, l'environnement, c'était très simple. Il fallait que je déménage. Je vous rappelle l'environnement, l'appart. Enfin, moi, j'ai marché dans des cadavres, slalomé dans les mégots. Enfin, voilà, tableau noir. Mais j'ai décidé de déménager.
Donc, changer de cadre.
Ouais, changer, mais pas changer de rue dans le village. J'ai changé de ville. Je suis passé de la banlieue de Montpellier, là-bas, à Gigean, pour être précis, pour ceux qui connaissent un peu le coin. Et je me suis installé à Quissac. Je connaissais personne, je connaissais absolument rien, sauf la clinique. Et ça, c'est un des points clés de ma stratégie. C'est être près des gens qui m'avaient tendu la main dans le soin, être à proximité. Mmh. Du coup, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en post-cure, je l'avais dit, en fait, la première chose, ton premier objectif quand tu rentres en post-cure, c'est stratégiquement de mettre en place ton activité professionnelle. Alors là, je vais faire l'amalgame, je vais essayer de pas me confondre pour que les auditeurs soient clairs, enfin que je puisse être clair pour les auditeurs. La réalité, c'est que moi, j'ai mis en place une société de transport de livraison de marchandises qui étaient des huîtres du bassin de Thau qui, pour aller les livrer à Paris. Et en fait, c'était un prétexte, c'était une bonne excuse pour aller voir ma famille tous les 15 jours avec... Un week-end sur deux, j'avais ma fille. Un week-end sur deux, j'étais dans la société que j'ai appelée MSPL. Et tous les 15 jours, en fait, au-delà du business et de l'activité qu'il fallait que je rends, il fallait que cette société soit rentable pour payer les trajets. Mon objectif à travers cette société, c'était d'être le vendredi soir à la sortie des bureaux à 16h à la disposition de ma famille jusqu'au lundi quand ils reprendraient le travail à 8h. Pour être à leur disposition et leur dire « Regarde, je suis là et je bois plus. »
Recréer du lien.
Exactement.
Le lien que tu avais perdu dans l'alcoolisme.
J'ai tout perdu, ouais. Mmh. Et ça c'était la stratégie de cette société. Donc, c'est mettre en place une activité pro et qui permet de recréer le lien avec ma famille. Ensuite, une fois que j'étais à Quissac, je fais partie de la communauté des alcooliques, quoi. C'est-à-dire que
à part t'as une autre famille quelque part. C'est tes pères. Enfin, c'est une autre famille.
Ouais, c'est tes pères. C'est on utilise ce mot-là exactement. Ouais. De toute façon, on fait partie de cette catégorie de gens en tout cas.
Ouais,
et là, on parle de stigmatisation, on parle d'exclusion, on parle d'étiquettes, de vignettes. Ouais. Hein, ceux qui nous écoutent et qui sont concernés.
Des petites cases. On peut y mettre tous les noms qu'on veut, mais on range les gens. Là-dedans. Hein.
C'est une petite trappe dans laquelle il y a une grosse place et dedans on y met tous les alcoolos. Quoi, tu vois, et là-bas on est nombreux et malheureusement trop en France, 7 millions, hein, soit dit en passant. Et en fait on se comprend, on a le même jargon les uns les autres, on est tous dans le même panier et dans ce panier-là les gens ils se comprennent. Voilà. Ouais. Et en fait, le lien que moi j'avais, c'était la salle de jeu à la clinique. Et j'allais à la clinique en fait en mode ambulatoire. C'est-à-dire que j'avais pas d'hébergement là-bas. J'avais mon petit appart à Quissac. Et dès que j'avais un petit moment de doute, un petit moment de tristesse, un moment de colère, enfin toutes les émotions dégueulasses qu'on peut avoir, de dégoût, de peur, hop, j'allais me réfugier à la clinique. C'est là où j'ai fait une belle rencontre avec Virginie dans ma vie.
Que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Elle m'a beaucoup parlé de cette salle de jeu.
Ouais.
Elle m'a beaucoup parlé de la façon dont tu t'étais investi.
Incroyable.
Dans cette salle de jeu, investi dans le jeu que t'adores. En fait, t'adores jouer, toi. Hein.
J'adore
c'est,
jouer.
C'est quelque chose. Ouais. Dès qu'il y a un jeu de société, on appelle Patrick. Voilà, ouais. Vous voulez faire un jeu de société. Vous voulez jouer au risque, on appelle Patrick.
Vous voulez faire un foot.
Vous voulez faire un foot, voilà.
Voilà, il y a des ponts, ouais, je suis joueur.
Et effectivement, t'es joueur, et ça t'a beaucoup aidé.
C'est une définition de la résilience. C'est qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé la joie de vivre, vraiment. Et dans cette joie de vivre, je prends plaisir dans l'adversité et dans le jeu. Et d'ailleurs, je crois qu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu autant de plaisir à aller jouer au foot de toute ma vie. Voilà. Et aujourd'hui, et c'est ça aussi que j'ai mis en place et qui fait qu'aujourd'hui je suis résilient, c'est que je me suis réinvesti dans le jeu qui me passionnait, c'est le football. Et ça me touche de vous parler de ça parce que le chemin est long, c'est long.
On parle de 11 ans là quand même. Hein,
ouais.
T'as fêté tes 11 ans d'abstinence, donc c'est tout un,
ouais.
C'est tout un déroulé, c'est pas
ça.
Rien en fait.
Et,
hein.
Et en fait, pour ceux qui nous écoutent, il faut être conscient que c'est un chemin qui peut être plus court, sans doute, mais j'ai fait vite. J'ai fait vite parce que j'ai compris la pathologie, parce qu'on me l'a bien expliqué, j'ai rencontré des gens extraordinaires, parce que j'ai mis du sens à ce que je faisais, j'ai compris que je faisais les choses pour moi. Les gars, faites, croyez en vos proches, aidez-les, soutenez-les. Et à travers des échanges et à travers peut-être le partage que nous sommes en train de donner aux gens, Mel, peut-être qu'on a ouvert des clés à des gens. Moi, j'en ai des clés à distribuer. Et voilà, et je considère qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait ce qu'il fallait, quoi. Et j'ai un titre à ce niveau-là que j'écoute. J'adore Maître Gims. Et je suis pas fan de tout ce qu'il fait, mais ce qu'il dit dans cette chanson, moi ça me porte. Voilà.
D'accord.
Si tu veux bien nous envoyer le son.
Fab, Maître Gims.
Encore une fois, y a pas de place sous carte sur table. ces voix tout près de moi qui chuchotent dans mon crâne. Le temps qui passe, les visages fans, mais je reste imperméable. Je fonce dans le tas, je mets les pleins phares. Dans le feu de l'action, j'attrape mon arme, une balle s'échappe. Je peux plus repousser chemin trop tard, maintenant que je suis dans le mal. J'allume ma clope au volant de cette spirale infernale. J'ai fait ce qu'il fallait, même si tout ça me torture l'esprit. J'assume mes erreurs, j'ai la conscience au bout du fil. Ma tête est ailleurs, me parle pas de savoir-vivre. Je suis la preuve vivante que la vie n'est qu'un film. J'ai fait ce qu'il fallait.
Souvent ça finit mal, difficile de voir des larmes à travers les flammes. Doit pouvoir voter, souvent ça finit mal, difficile de voir des larmes à travers les flammes. Mon âme à la dérive, l'impression d'être libre. Dans mes yeux tu peux lire, je reste ferme et solide.
Encore une fois. Ces voix tout près de moi qui chuchotent dans mon crâne. Le temps qui passe, les visages fans, mais je reste imperméable. Je fonce dans le tas, je mets les pleins phares. Dans le feu de l'action, j'attrape mon arme, une balle s'échappe. Je peux plus repousser chemin trop tard, maintenant que je suis dans le mal. J'allume ma clope au volant de cette spirale infernale. J'ai fait ce qu'il fallait.
Alors Patrick, pourquoi ce petit morceau de Gims ?
Bah, il a fait ce qu'il fallait. J'ai fait ce qu'il fallait. Et si j'avais un petit mot à rajouter, pour ceux qui sont concernés directement par la pathologie et ceux qui sont autour, on sait que les piccolos, parfois, ils nous disent un petit peu des mensonges, ils arrondissent les angles, ils nous mentent. Mettez-y le vocabulaire que vous voulez. Moi, je vais dire aux alcooliques, celui qui est alcoolodépendant et qui est bien conscient qu'il l'est, il faut qu'il soit honnête avec lui-même. Un de mes outils à moi, ça a été la glace. Tu peux pas te regarder et te mentir, sauf si t'es fou, en fait. Et là, on relève de la psychiatrie avec des pathologies qui sont diagnostiquées, on les connaît. Mais quand t'es sain dans ta tête et que tu sais que ce que tu te racontes, t'es en train de raconter des histoires aux autres, essaye de ne pas raconter des histoires à l'autre. Essaye plutôt d'aller trouver des gens à qui tu vas capter la sensibilité. Et sois honnête avec toi-même. Tu seras honnête avec les gens. Et regarde-toi dans la glace le soir.
Ouais.
Voilà. Et si tu fais ça, c'est difficile de se mentir. Et du coup, t'avances.
Ok. Voilà. Avant de commencer nos micro-trottoirs, j'ai posé la question à une de nos auditrices qui nous écoute tous les mois. Elle s'appelle Jo. Et comme elle habite loin, je l'ai appelée. Je lui ai dit, Jo, est-ce que tu as des questions à poser à Patrick, toi qui nous suis, toi qui écoutes les émissions ? J'en profite en même temps pour rendre hommage à travers ça à son frère, à mon ami Jean-Mi, à tous ceux qui ne sont jamais revenus de l'enfer, eux. Voilà, ils sont 60 000 décès par an. Jo, elle te pose cette question. Patrick, pendant ces années d'abstinence, as-tu ressenti la peur de replonger en enfer? Et si oui, est-ce la peur qui t'a aidé à résister? Tu parles d'honnêteté avec Maître Gims, mais est-ce qu'il y a aussi la peur?
Ben, je vais présenter mes condoléances évidemment à Jo. Je vais reprendre le fait que effectivement 60 000 morts de l'alcool fait 60 000 morts par an et 200 000 personnes meurent de maladies induites par l'alcool. Donc les gars, quand même, il y a un moment où faut prendre réalité de ça. Et du coup, ben Marie-Jo, puisque tu écoutes les émissions, je peux te garantir que la peur est un sacré outil pour ne pas rechuter. Je pense qu'elle est propre à chacun et on a tous nos démons, on a tous nos peurs, on a tous nos angoisses. Et c'est là où c'est un paradoxe parce que l'alcool vient penser ça au départ. Et effectivement, après, dans le chemin de la résilience, bien sûr que j'ai eu peur et j'ai eu peur... de deux choses. La première, ça a été d'aller en prison parce que j'avais fait des conneries sur la route en voiture et j'avais cumulé. Hein, je vous ferai une petite avec.
Oui, Mel. On fera un petit podcast là-dessus.
On va faire un podcast sur le permis de conduire et les conneries, l'alcool au volant. Et voilà, bon, j'avais en gros, je me suis levé le 16 décembre 2000, le 12 décembre 2016, pardon, avec 2 ans d'emprisonnement
qui te pendait,
qui était, ouais, qui était plus que promis à ma tête. Et du coup, j'ai eu peur de ça, nécessairement. Et puis, j'ai eu peur de rebrûler en enfer comme c'était le cas. Et effectivement, tous les jours, je pensais à ça d'une manière ou d'une autre, de 15 juin 2015 à 12 décembre 2016. Et donc forcément, ça m'a aidé à maintenir l'abstinence. La peur est un sacré outil et ça n'est pas le seul outil, il en faut d'autres. Et la peur m'a bien aidé. Ouais.
Ouais.
Voilà, je pense que ça répond bien à la question de Marie-Jo. Donc oui, la peur est un outil pour s'en sortir.
Elle demande aussi, est-ce que la question du caractère, est-ce qu'il faut avoir un fort caractère pour surmonter les épreuves, les tentations durant ces 11 ans et aller de l'avant? Est-ce que c'est aussi une question de caractère?
Alors là, ma réponse, elle doit vraiment être délicate par rapport aux gens qui nous écoutent. Donc, je vais répondre à deux vitesses.
Ouais.
J'ai envie de répondre spontanément en faisant du Patrick. Ah bah ouais, Marie-Jo, c'est clair que si t'as pas de caractère, t'es mou, t'as pas d'idées, t'as pas de création, ça va être compliqué de te sortir de ça va être...
de la maladie.
Ouais, non, de bas tétanol sans, ouais, caractère,
c'est compliqué. Goliath, quoi.
Ouais, ouais, là, ouais. Là c'est un sacré ring. Et du coup, bien sûr, il faut du caractère. Ceci dit, dans les personnes qui nous écoutent, et en plus, là, je fais référence, on en a déjà parlé, à l'alcoolisme féminin.
Oui.
Donc pour les femmes, oui. Au féminin, c'est-à-dire dans une discrétion et une honte... plus. Moi, j'ai consommé l'alcool comme ça. Je l'ai consommé un peu caché, un peu reclus.
Exact.
Et du coup, t'as une vraie perte de caractère. T'es tout seul. Avoir du caractère, c'est quelqu'un qui va être motivé, qui va se bouger, qui va se donner les moyens d'eux. Mais quand t'es tout seul, c'est ça le caractère. C'est d'aller trouver cette frontière entre je suis tout seul, mais j'arrive tout seul à me sortir du truc. J'ai envie de dire, Marie-Jo, ne misons pas sur le caractère, qui est un outil précieux et une force de caractère dans ce combat-là. Toutes les pathologies chroniques, vous l'avez, alcoolisme ou pas, vous l'avez autour de vous. Les gens qui ont cette force-là de je cherche mon mot, je le trouve pas là, mais d'aller lutter.
La pugnacité.
Ouais, et puis d'aller se battre contre, ouais, la maladie, quoi qu'il en coûte. Si t'as ça, c'est une force supplémentaire.
Ouais.
Si t'as pas ça, qu'est-ce que c'est l'arme? C'est d'avoir des proches, c'est, ouais, d'avoir des gens qui te soutiennent, des gens qui te guident pour te montrer le chemin, des gens qui t'accompagnent, des gens qui sont là. Et là, on parle de la résilience. Et du coup, il y a des... Ça peut être un tiers, le bâton de résilience.
C'est ça, il faut aller chercher quelque part son bâton. Il faut aller chercher son...
Il faut de toute façon une trousse à outils.
Ouais.
On n'a jamais trop d'outils.
Ouais.
Il faut avoir les bons outils. Et c'est ça, voilà, c'est ça, la métaphore. En fait, Marie-Jo... et les gens qui nous écoutent, des outils, il y en a plein. Des outils qui sont nécessaires et indispensables, il y en a. Et l'outil d'avoir de la force de caractère, dans mon cas, ouais,
ça a été bon.
Ça a été bon parce c'est que j'ai un putain de caractère et j'ai une putain de force mentale, morale, perso. Qui, voilà, mais c'est les valeurs qui m'ont été inculquées par mon éducation, par le sport que je pratique. Tous les sports demandent ça. Hein, quand tu es combattif, quand tu es compétiteur, tu as cette grinta. Et en fait, j'ai ça grâce à mon éducation, j'ai ça grâce au sport et j'ai un courage qui est certain. Et j'espère que je transpire ce courage à travers la radio Escapade, là, oui. En ce moment.
Eh bien ça, j'ai envie de lancer ces phases, du coup, j'ai envie de lancer le deuxième morceau de cette émission. Et c'est ces phases, j'ai mangé le soleil.
Ça me tient chaud l'hiver. Je me suis acheté une veste comme l'année dernière. J'ai fini mon assiette. Je ne suis pas seul sur terre. Et j'ai un téléphone qui fait de la lumière. On a mangé le soleil. On a mangé les étoiles. On a mangé le ciel. Et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune. Car après tout, car après tout, on peut se nourrir d'espoir. J'ai un chien, comme l'année dernière. Ma veste se démode, je la laisse à l'abbé Pierre. J'ai mangé mon assiette, j'ai remis le couvert. J'ai goûté au futur, il a un goût amer. On a mangé le soleil. Avaler les pépins, j'ai dévoré l'ennui, mais j'ai encore faim. J'ai léché les trottoirs, la faim jusqu'à la fin. J'ai voulu arrêter, mais je me suis bouffé les mains. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune, car après car, car après tout, on peut se nourrir d'espoir.
Vous êtes sur Radio Escapade à 104.1 Saint-Hippolyte-du-Fort, 102.0 à La Salle, 103.3 à Ganges-le-Vigan et partout dans l'univers sur radioescapade.org. Voilà, c'était ces phases. Les paroles sont géniales, c'est tout à fait ça.
Ouais, un peu de joie et la résilience, ouais. c'est ça aussi. C'est croire en la joie et aller, c'est ça, aller vers le soleil.
Ouais, aller vers le soleil.
C'est ça.
J'ai fait des micro-trottoirs, comme d'habitude, sauf que le format va un peu changer. Je vais passer question par question. Et nous allons lancer la première question du micro-trottoir. Fab, c'est à toi.
Vous avez une question à lui poser ?
Oh, ben, s'il s'amuse bien.
Est-ce qu'il s'amuse bien ?
Alors ?
Eh bien, écoute... il y a tout s'équilibre dans la vie. Et en fait, je ne m'amuse pas du tout dans ma vie par rapport à la pathologie et les conséquences de ce que ça a laissé, parce que ça a détruit beaucoup de choses. Par contre, dans ma balance aujourd'hui, ouais, je m'éclate. Je fais que les choses qui me plaisent. Je filtre complètement le reste. Et dès que les gens ne me correspondent pas, chacun fait bien ce qu'il veut, quand ça ne me va pas, je quitte.
Ouais. Ouais.
Je fuis.
Tu t'embarrasses plus.
Et je vais vers le soleil, et je vais vers la joie.
C'est ça.
Voilà, et je m'éclate aujourd'hui.
Et tu t'amuses bien.
Ouais, je m'amuse bien.
Deuxième question.
Peut-être déjà, comment est-ce qu'après 11 ans, ça reste, ça devient plus facile ? Est-ce qu'il y a toujours un peu, toujours cette pression, cette peur peut-être de renoncer, de craquer, même au bout de tant de temps ?
C'est une question qui, je vais répondre personnellement très simplement. Je n'ai absolument plus peur. Aujourd'hui, j'ai gagné le combat. Et Tanol est là-bas en train d'agoniser. Je le regarde tous les jours, malheureusement, à côté de lui. Il reprend espoir dans le verre des uns et des autres. Et moi, je le vois qui s'accroche aux gens là. Mais avec moi, il a perdu. Il peut plus m'atteindre.
Ouais,
c'est fini.
C'est terminé.
Ouais.
Il est.
Et du coup, ma vie est de plus en plus facile.
Ouais. Ouais, ça c'est chouette.
Ouais.
Je pense que c'est vraiment important que tu dises ça pour certains de nos auditeurs ou même pour tous, c'est-à-dire que on va quand même vers quelque chose de plus facile.
Ah bah oui, et puis et non seulement de plus facile, mais enfin là, toi tu me connais, tu me vois, physiquement je rayonne, j'ai une belle peau, je suis en forme, je fais du foot tous les jours, je suis dans une forme olympique.
Bah, en 2015,
les gens qui me connaissent pas ne le croient pas, mais c'est en 2015 ça. Je marchais pas, il me fallait une heure pour mettre une chaussure et son lacet, une heure pour mettre la deuxième, et puis en fait je me remettais dans le lit parce que ça m'avait demandé un effort de fou. Aujourd'hui je change 4 fois de paire de crampons par jour.
Ouais. C'est impressionnant.
Ouais, j'ai changé ma vie. Ouais.
Troisième question.
Comment est-ce qu'il fait pour réussir à mentalement être assez fort pour ne pas retomber dans des périodes difficiles, par exemple, pour ne pas boire quand il y a une déception ou quelque chose, je sais que c'est un peu ça l'alcoolisme, de ne pas boire un verre dès qu'il a une émotion un peu plus forte qu'une autre. Comment est-ce qu'il fait, vraiment ?
D'accord.
Okay. Pour... voilà.
Moi, ça serait la même question. En vrai, j'ai pas spécialement d'autres questions qui me viennent en tête. Mais ouais, de savoir se contrôler quand ça va pas ou quand il y a des moments de down, quoi.
D'accord.
Elle est piège, cette question, parce que je vais répondre pour moi et je vais répondre simplement en disant c'est une question d'engagement, c'est une question de glace, c'est une question de rapport à soi-même. Moi, en fait, c'est se respecter et aujourd'hui, on peut pas lutter contre cet adversaire sans... C'est ça les valeurs du sport. Tu peux pas battre ton adversaire si tu le respectes pas. Et Tanol est plus fort que l'alcoolique. Il gagne tous les jours. Et en fait, le résilient, c'est celui qui a gagné une fois et qui après a mis des outils en place pour ne pas laisser d'âme rechute passer.
C'est ça.
Et donc, pour répondre à cette jeune femme de manière simple, mais on en parlera dans un podcast plus détaillé, la réalité, c'est que je vous rappelle, je vous l'ai dit, je me suis engagé avec la seule personne qui était là. Moi, j'avais fait une promesse. J'avais promis d'aller voir ce qui s'était passé au bout d'un an. J'ai répondu aussi à Jo à travers la question de tout à l'heure. La peur de la sanction. Donc j'ai des choses qu'on vulgairement on peut appeler des déclics qui font que je me suis battu contre ça. Mais fondamentalement, je pense qu'il y a une question d'éducation et il y a une question de valeur qu'on porte. Et je crois que la chance, si on peut appeler ça une chance, c'est que j'ai un putain de caractère, une putain d'éducation, j'ai eu du courage et j'ai été honnête avec moi-même.
C'est ça, l'honnêteté, on revient à l'honnêteté.
Ouais,
c'est
ce que il faut se respecter, ouais. il faut être humble aussi, parce que il faut savoir perdre. Et ça, c'est important que surtout les gens qui sont proches des alcooliques, il faut savoir perdre. La défaite, il faut l'accepter. Voilà. Quand on est face à l'alcoolisme, il faut accepter de perdre. Parce qu'en fait, l'important, c'est pas de gagner beaucoup de rounds, c'est pas de toucher beaucoup de fois son adversaire, c'est pas de marquer beaucoup de buts. L'important, c'est de mettre le coup qui est fatal, c'est de mettre le chaos, c'est de mettre la pleine lucarne à la 90e minute. Il faut, à un moment, bam, il faut stopper l'hémorragie. Quoi.
Okay. Voilà,
c'est ça, l'abstinence et la résilience.
Quatrième question.
Nous on n'est peut-être pas dans le stade alcoolique, mais quand on bouge, on boit.
Je pense que le sport, c'est
rare qu'on
passe
en
une bonne thérapie, je pense.
C'est ça.
Alors là, il y a dans ce petit micro-trottoir, il y a c'est un tableau, c'est une représentation de ma part, mais je pense que le premier qui parle, qui semble un peu plus âgé, je pense que il est fortement sur la bouteille. Et après, on a un jeune là, ou en tout cas dans sa voix, il fait plus frais, et je pense que lui, il a déjà compris qu'il valait mieux faire du sport plutôt que de boire.
Ouais. Et l'autre, il dit quand on sort, on boit.
Ouais. Et
quand
voilà.
On sort.
Donc là, je pense qu'il y a un bon tableau sociétal et je pense qu'il y a une belle situation. Tu as dû te régaler dans ce micro-trottoir.
Je me régale toujours dans les micro-trottoirs parce
ouais, je
que
sais.
Je vais vraiment vers tout le monde. Donc,
ça, j'ai capté. Ouais. C'est un des trucs qui est extraordinaire dans ton émission. Et en fait, c'est ça la réalité. C'est que en fait, ce triangle-là, toi, tu l'as dit tout à l'heure, ton ami qui décède, un mec devant toi qui est résilient, il n'y en a pas beaucoup. Et là, un tableau avec un mec qui, de toute façon, il est pote avec Éthanol. Et l'autre, il a compris qu'Éthanol, c'était de la merde. Le sport, pour répondre à ta question, jeune homme, c'est plus qu'essentiel. Le sport, ça entretient ta machine et ton corps. Et ton corps, c'est ta machine pour la vie. C'est un des trucs que je dis à mes gamins au foot. Respecte ton corps. Respecte ton corps, respecte ton esprit. Fais du sport. Fais du sport. Quelle que soit ta situation, de toute façon, si tu entraînes ton corps à se battre et à être dans l'effort... Face à la pathologie, il est forcément plus fort et t'en as besoin.
Et ça nourrit d'autres choses, du
coup. Ça nourrit plein de choses, en plus.
Je crois que le sport revient souvent. On va écouter l'autre question.
Et c'est quoi comme passe-temps aussi, d'ailleurs? Parce que vu qu'il passe son temps à boire, donc qu'est-ce qu'il fait maintenant?
Qu'est-ce qu'il fait maintenant?
C'est le plus dur, ça.
Ouais, bah oui, c'est ça, le truc.
Eh oui.
Ouais, alors là, tu vois, c'est ce qui m'amène à pousser le projet un petit peu radiophonique au télévisuel et puis à aller à la confrontation dans le projet que je suis en train de mettre, là, d'aller faire...
D'aller dans la rue aussi.
Ouais, d'aller dans la rue. Bah, la rue, je l'ai faite à travers le SAMU social, donc je suis fixé. Mais il utilise, ce jeune homme-là, il utilise un passe-temps. Et en fait, les gens qui vont écouter l'émission, tu peux pas dire ça à un alcoolique, il passe pas son temps à boire. C'est comme si tu disais à un mec normal, ordinaire, tu dis ouais, tu passes ton temps à respirer.
C'est pas son passe-temps.
Il y a un moment où il faut atterrir. Les mecs qui sont dans l'alcoolisme, ils passent pas leur temps à boire. En fait, ils ont un besoin et par contre, ils sont en réflexion à toujours essayer de garantir leur stock, à savoir s'ils ont la thune pour se la payer. Ils sont en galère, ils en ont pas.
Ça, c'est des stratégies qu'on a vues dans les émissions précédentes.
Donc, pour répondre à cette question-là, j'accepte l'expression passer son temps, mais je vous invite sérieusement à éviter cette expression avec des gens qui sont concernés par le toxique. J'étais tout le temps alcoolisé, je l'assume très bien. Je vivais à 3 grammes au quotidien. Et effectivement, ma vie tournait autour de ça. Et donc, effectivement, ça prenait beaucoup de temps à consommer, à avoir le produit, à vivre malheureusement l'état alcoolique et puis essayer de se soigner. Enfin, c'est beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je le dis, je passe mon temps à faire du sport, à faire des jeux de société parce que Mel, effectivement, est dans quelques indiscrétions personnelles, pour le dire comme ça. Et je joue, je suis tout le temps en train de jouer.
Voilà. C'est ça.
Et le sport, c'est un de mes kiffs.
Je me demande si c'est pas la question suivante, d'ailleurs.
Est-ce que le sport l'aide?
Répondu
ça.
Non, mais la question doit être posée.
Oui,
est-ce que le sport
posée,
m'aide? Et c'est bien parce que finalement, cette question, elle est tellement simple qu'elle est ultra ouverte. Donc, le sport, dans le passé, m'a insufflé, m'a inculqué, m'a donné des valeurs. Dans la pathologie, mon état sportif, mais mon état dégradant fait que mon corps a su ne pas se faire abîmer par éthanol. Et ensuite, dans le chemin de la résilience, le goût au sport et le jeu à travers le sport et mon âme de compétiteur font qu'aujourd'hui, le sport, c'est votre meilleur pote.
Il y a
les
tout
gars.
Qui réunit. Oui, la compétition, le
faites
jeu.
Du sport, faites du sport. Interpellons le ministère de l'Éducation nationale. Arrêtons de calquer nos enfants là, sur un 9h, 17h pourri. Mettons nos enfants à l'école à 8h le matin.
Et
laissez-les
sport,
sortir
l'après-midi.
À 14h. Et ouais, faites du sport et mettez des éduques. Et faites du sport. Avec le sport, on peut tout apprendre. C'est mon média avec Résilio.
Oui, c'est
quoi.
Vrai que c'est,
faites du sport, les gars.
Faites
du sport. Ça ouvre les chakras, ça ouvre les possibles. Faites du sport.
Écoutez la question suivante.
Comment est-ce que ça a changé sa vie en fait après 11 ans, est-ce que niveau socialement ou les autres aspects de sa vie, est-ce que c'est différent?
Ma vie est complètement différente aujourd'hui. Je commence par ce qui n'est pas bon, mais j'ai définitivement plus de famille. Donc, de vivre sans famille au quotidien, bah, c'est compliqué. Hein. Je suis relativement jeune. Ça fait 20 ans, je vous parle d'un parcours qui a 20 ans. 10 ans d'alcoolisme, 8 ans de soins, 7 ans de soins, 8 ans de soins, là. Et la vie au quotidien, elle me rappelle tous les jours que mon père est décédé, que ma mère perd la tête, que ma fille est absente, que j'ai pas de frère. Enfin, j'en ai deux, mais je les vois jamais. Et mes belles-sœurs, je les vois plus. Mes neveux, mes nièces, je les vois plus. Donc, ça a changé ma vie.
Ça a clairement une rupture.
Ouais, il y a une rupture familiale qui est forte. Ça a changé ma vie parce que avant j'étais un passionné de vin, j'étais un cadre de l'hôtellerie-restauration, disciple de Paul Bocuse. J'avais un métier passion. J'investissais pour monter mon resto et voilà. Et aujourd'hui, bah, je suis éducateur fédéral sportif au foot.
Oui, exact.
Voilà, diplômé. Et je suis en train de doucement viser. Je vais citer Saint-Exupéry. Je suis obligé. La vie, c'est de faire des rêves et c'est de faire de ces rêves des réalités. C'est ce que je fais. Et moi, je rêve de mettre le pied là où j'ai échoué au foot, c'est-à-dire dans le monde pro. Et je rêve de fouler les pelouses avec des joueurs qui sont pros et de leur permettre de ne pas aller vers le toxique.
Ouais. Ouais. On va écouter la question suivante.
Quelle est la place et le rôle du social et de l'entourage dans tout ça ?
Ouais, intéressant.
Pour lequel ça peut aggraver la situation ou entraîner à la consommation ? Mm-hmm. Pousser à la consommation.
Et dans l'abstinence, du coup, le contraire aussi.
Ah bah oui,
ouais. Oui. Et ouais. Oui, à quel point ça peut aider aussi si on prévient nos proches qui nous.
Oui, ou à quel
même,
point
même
ça
le fait
peut.
D'être, à quel point être abstinent, ça te coupe aussi de certaines interactions sociales.
Oui, c'est ça. Ouais.
Alors, cette jeune femme et ce jeune homme-là, s'ils écoutent Radio Escapade, il faut vraiment qu'ils se débrouillent pour contacter Mel et il faut qu'on débatte parce qu'en fait, votre question, elle est très intelligente et il y a tout dedans. Je ne pourrais pas répondre là. Le rapport social et familial, les proches, la combinaison entre le tiers et le patient.
Entre ça ferait une émission entière.
Ouais,
il y a beaucoup à dire. Hein.
C'est énorme.
Il y a beaucoup à dire.
Et le mot important, pour moi, il devient tout petit. Mmh. En fait, c'est primordial, c'est fondamental, c'est obligatoire. C'est, voilà, on peut pas, je n'aurais pas pu me sortir de la pathologie sans le lien que j'ai eu avec... quelques personnes, c'est pas 200, hein, c'est pas 5000, c'est quelques personnes qui viennent combler le manque familial, qui t'écoutent, voilà,
ouais,
l'écoute,
tiens,
voilà,
présence,
voilà, l'écoute, compréhension, voilà.
Ouais.
Et que ça soit avant, pendant et après, c'est
primordial. Ouais. On écoute la question.
On a quand même une société en plus où l'alcool reste un peu omniprésent et où même ne pas boire et ça évolue, je pense, doucement, mais il y a encore quand même cette pression-là, l'alcool festif, etc. Et, ça, pareil, est-ce que ça devient plus facile ? Est-ce que c'est toujours, toujours cette pression-là qui doit être pas facile à encaisser, j'imagine ?
Alors, jeune homme, viens m'aider à lutter contre ce fléau, tout simplement. Ouais, c'est plus qu'une pression sociale, c'est une culture. On l'a dit dans les émissions précédentes avec Mel, c'est dingue la place que l'alcool prend dans notre société. C'est dingue, alors que ça apporte que de la merde. Et
comment tu faisais, toi, en soirée, justement, pour
alors,
avec la pression, avec la pression sociale, c'est-à-dire quand, dans ton abstinence au début, par exemple.
J'avais des outils qui sont propres à chacun. Moi, je consommais du Perrier.
Donc, t'arrivais avec ta bouteille de Perrier.
Ouais, j'arrivais avec une bouteille de Perrier et c'était facile. Les gens me proposaient un verre et tout simplement, je disais, écoute, en fait, je viens de passer une belle grosse journée ensoleillée. J'ai joué au foot toute la journée. Laisse-moi boire mon petit litron de Perrier et puis après, je vous rejoindrai dans l'apéro, quoi. Et puis alors, c'est dingue parce que ça change.
Ouais.
Y a des gens qui ne boivent pas et ils l'assument. Et en fait, c'était mon bouclier, quoi. J'avais me fait pas chier, j'ai ma bouteille de Perrier, j'ai pas envie de ta merde là. Avant, j'étais pas militant, et maintenant, sans être rentre dedans, subtilement, j'interroge sur l'intérêt à boire de l'alcool et en fait, les gens ont beaucoup de mal à trouver un intérêt. Voilà. Et en fait, le seul intérêt que ça a, c'est que ça liste les gens, ça vous met tous dans une même boîte, là, c'est-à-dire ceux qui consomment, ceux qui, avec qui tu as plaisir à discuter à 18h quand ils rentrent de la journée et que l'apéro commence. Puis quand tu les regardes à 10h le soir, là, après le repas, ils t'intéressent pas, quoi. Et puis alors, et je le dis quand même, parce que au moins pour la gente féminine, enfin, quand t'es nana, que tu sens l'alcool et que tu pues le tabac, c'est pas très attirant, quoi. Hein. Faut dire ce qui est, ou t'es en train de vomir dans les chiottes là-bas.
C'est voilà. Pas très glamour. C'est pas on va très dire glamour. Que, ouais. Effectivement, ça manque un peu de glamour. Voilà. On va écouter là.
Non,
est-ce qu'on peut
être
glamour en vomir la tête dans les toilettes? Oh, alors ça sera. Je pense que Fab rit derrière.
Non, c'est
notre ingé son rit. Mais oui, ce sera un prochain micro-trottoir, Fab, je pense. Est-ce qu'on est glamour quand on vomit dans les toilettes?
Ah ouais, on va faire ça. Ouais, venez les partager avec nous.
On va prendre la prochaine question.
Moi, j'ai ce mécanisme-là. En soirée, je bois un seul verre. Par contre, je dis à tout le monde que c'est mon premier verre. Pas de souci là-dessus, mais
d'accord.
Je bois un seul verre après soirée.
C'est pris comment?
Bah,
parce qu'on parlait un peu de pression sociale.
Je suis juste celle qui boit pas particulièrement.
Ouais, dans notre entourage, ça va. C'est ouais. Pas, y a pas mal de personnes qui boivent pas et c'est ok.
Justement, okay. J'ai une discussion avec un ami à moi la dernière fois qui me disait limite, moi je me pose des questions quand je vois que tu prends un sirop de violette au bar et que nous on a tous une bière, et il m'a dit ça me fait me dire, ah, elle est super bien dans sa vie. Alors que pas forcément, mais juste dans sa tête, c'est un truc hyper sain de elle a pas besoin de boire un coup pour être avec nous. Là, elle s'éclate même si elle va pas avoir un petit coup dans le nez, quoi.
C'est intéressant.
Ouais.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vos prénoms?
Mélanie.
C'est génial.
Et Nathanaël.
Ok. Ben, merci beaucoup,
merci
Mélanie.
Beaucoup.
Merci Nathanaël.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bon, Mélanie et Nathaël, vous êtes frais. Vous avez entendu que j'étais en forme là aujourd'hui. Donc, Mélanie, je vais te péter un petit tacle. Pourquoi un verre? Prends zéro si t'aimes un jus de mangue ou un coca ou un Perrier ou je ne sais quoi. De l'eau. Prends un verre, et le verre d'alcool, c'est un verre de trop. Mais je te félicite parce que tu fais partie de ces gens qui ont compris que, bah voilà, toi, ton choix, c'était un verre et pas deux. Et, Si tu veux venir rejoindre la team Résilio avec zéro verre dans la soirée et on s'éclate, viens, tu seras la bienvenue. Et puis Nathaël aussi, ils ont bien compris le truc. Mais ils ont raison, il y a de plus en plus de gens qui arrivent à passer des bons moments sans l'alcool en soirée.
Et qui l'assument de plus en plus, j'ai l'impression, de dire non, moi je...
J'espère, voilà. Ouais, j'espère ouais, qu'ils l'assument. Et puis je pense qu'assumer, ça veut dire qu'on fait quelque chose...
Avec la pression sociétale.
Ouais, mais arrêtons d'assumer voilà. En fait, et continuer à ne pas boire. Et Mélanie, j'adore le sirop de violette. C'est incroyable, c'est un de mes sirops préférés. Et je crois que c'est le seul sirop que j'achète. En me disant je vais boire volontiers de la violette. Voilà.
Buvons du sirop de violette.
Exactement.
Question suivante.
Je veux bien prendre tous les cadeaux du monde pour me féliciter de mon abstinence avec un stock de sirop de violette.
Sirop de violette.
Ouais, ça ira très bien.
Et quelles sont les difficultés par lesquelles il passe maintenant pour pouvoir tenir ce résultat qu'il a sur 11 ans? 11 ans après 10, c'est pas 11 jours, hein. C'est
non.
Pas 11 mois.
Non, ouais. C'est ça.
Et dans la société, avec son environnement, ça se passe comment? Pas que son environnement ait des intentions négatives, mais généralement avec les fêtes, oui, comment est-ce qu'il gère ce moment en famille?
Il est, j'aime bien ce monsieur-là, il a souligné, c'est pas 11 jours.
C'est pas 11 jours,
pas 11
c'est
semaine,
pas 11 mois.
C'est pas 11,
hein,
mois,
c'est 11 ans.
Eh hey, mec, c'est 11 ans.
Ok.
J'ai pas son prénom, mais
Franck
ouais. Je te remercie. Je te remercie de souligner cette performance.
Ouais,
voilà.
C'est pour ça que je l'ai passé, cette question-là. C'est juste parce qu'il s'est souligné cette performance.
Il est. Comment j'ai fait, du coup? Tu poses la question en famille, mais en fait on va transposer ça à la société, en famille ou en société. J'ai mis en place des outils et je me suis convaincu que ça serait bénéfique d'arrêter, ouais. Et j'ai été soutenu par les proches et j'ai joué de l'abnégation, j'ai joué du courage, j'ai compris la pathologie, donc j'ai mis en place des stratégies et j'ai plein d'outils à partager. Et pour répondre au mieux aux auditeurs par rapport à cette question, j'ai cette capacité avec le parcours qui est le mien, à aujourd'hui être patient expert, si on peut appeler ça comme ça, parce que voilà, passons les détails. Mais le patient expert, il est capable de vous écouter dans votre situation et de venir vous donner des outils. Moi, j'ai réussi avec mes outils, on aura des outils communs et voilà, je les redis, je le répète pour répondre à Franck, courage, éducation et honnêteté avec soi-même et beaucoup de sport.
Ok, question suivante.
Ouais. Et deuxièmement, quelle activité humaine pour pouvoir garder cette mentalité? Parce que garder cette mentalité, c'est aussi un entraînement. Ça veut dire que quelque part, est-ce qu'il a aussi des occasions où il sensibilise des gens par rapport à cela? Est-ce qu'il sert d'exemple pour d'autres personnes? Parce que ça, ce sont des références sur lesquelles ça peut te servir de fondation pour ne pas trébucher. Tu peux te dire que tu es un exemple pour quelqu'un, donc faut pas que tu cèdes, sinon il y aura une avalanche derrière toi. Ça peut être une question.
Alors, je me permets de... On est à la radio, on voit rien, mais je vais décrire à nos auditeurs ce que je suis en train de faire. Je donne une petite pochette à Patrick, voilà, il va l'ouvrir, et puisqu'il a fêté ses 11 ans d'abstinence le 15, donc il est en train d'ouvrir un petit cadeau que je lui fais pour son anniversaire des 11 ans d'abstinence. Est-ce que tu veux que je te l'ouvre?
Ouais,
avec mes
ouais,
petits
bah ça
doigts.
M'émeut en plus.
Donc ouais, moi je vais le faire et regarde.
Ah bon, ok. Ben c'est... Ouais,
qu'est-ce
c'est...
que c'est?
C'est
tu magnifique. Peux nous le décrire?
Ouais,
parce que je trouve que c'est en lien avec la question, c'est en lien avec ce que dit Franck. Donc tu vas répondre à la question avec ça dans les mains.
Ben, c'est magnifique, c'est un petit pins avec notre petit prince de Saint-Exupéry qui est assis sur sa lune et il est en train de pêcher une étoile.
Voilà.
Ben, c'est...
Il est en train de pêcher une étoile, j'ai trouvé ça magnifique.
Merci, il est magnifique. Et ouais, ben, Franck, viens rencontrer Mel, viens poser tes questions, elles sont pleines de sens. Mélanie m'a un peu perturbé là dans ma réponse.
Oui.
Qu'est-ce qu'il demande, Franck?
Il demande est-ce que tu fais de la...
complexe.
Bah c'est non, c'est pas complexe, c'est ton t-shirt, c'est le petit prince. Tu informes les gens.
Ah oui, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Bah ouais.
Je l'ai un peu ému, désolé.
Ouais, elle m'a cassé les genoux. Ouais, Franck, aujourd'hui, j'ai monté une association qui s'appelle Résilio. C'est une association qui a pour but de faire du soutien à la parentalité, du soutien à la scolarité. C'est une façon de dire aux enfants, fais de ta vie des rêves et fais de tes rêves une réalité.
Et c'est ce qu'il y a
fait,
sur ton t-shirt.
Va chercher des petites étoiles et construis ça. Et en fait, c'est ce que je fais avec les jeunes du foot parce que... Bah, je suis un passionné de foot, eux aussi. Et en fait, je sers d'exemple à ces jeunes. Donc, je bois pas, je fume pas, j'essaye de leur montrer un chemin sain et je prône les valeurs du sport et du sport collectif, à respecter l'adversaire, le fair play, enfin voilà, de jouer, de s'amuser. Et pendant que tu joues au foot, tu penses à rien et t'es pas en train de faire autre chose. Et en fait, tu entretiens ton corps, ça te permet d'attaquer l'école le lendemain en étant avec la bonne de te coucher avec la bonne fatigue, d'attaquer ta journée avec quelqu'un, ton coach sportif qui croit en toi, qui te donne... Ça me permet de faire du lien avec les familles parce que la carence, elle est toujours au niveau parental. Et voilà, aujourd'hui, j'ai sublimé mon mal et je me sers de toute la merde, c'est le mot qui me vient, que l'alcool peut induire dans notre vie, dans notre société, dans nos personnalités pour protéger nos enfants, voilà.
Ouais. Et ça t'aide à tenir, parce que sinon il y a une avalanche derrière toi.
Ouais,
c'est
alors il a raison, et ça c'est les gens qui sont fragiles par rapport à l'abstinence, c'est Dame Rechute qui vient s'inviter chez les gens, et Franck, Dame Rechute, je lui ai fait comprendre qu'il fallait séduire ailleurs, mais plus chez moi, elle a plus de chance.
Ouais. Voilà. On va passer à la dernière question.
Je me demande si du coup, de ce fait, il sent toujours aujourd'hui, même après 11 ans, peut-être du jugement chez certaines personnes. Du jugement ou de la compassion. Disons, comment il perçoit le regard des gens encore aujourd'hui.
Ouais, c'est intéressant ça.
Est-ce qu'il assume avoir été? Est-ce qu'il assume toujours? Est-ce qu'il s'en sert de force? Ou au contraire, est-ce que c'est toujours un combat qu'il a du mal à livrer aujourd'hui? Voilà.
Ouais, c'est chouette. Merci beaucoup.
Mais avec plaisir.
J'ai toujours pour là maintenant pour leitmotiv pour dire que ouais j'ai une force qui j'ai une boule de feu qui est décuplée par rapport à toute la souffrance qui a été la mienne dans ce parcours. Tout ce que j'ai perdu je le récupérerai pas et la motivation que j'ai elle est énorme dans mon parcours aujourd'hui. Enfin dans mon parcours la réalité c'est que c'est moi qui ai appris à regarder les autres et à faire fi en fait de leur jugement sur ma vie passée, sur qui j'ai été, ce que j'ai fait. J'en profite pour bien dire clairement que dans ma vie à moi, j'ai abîmé personne, je n'ai fait de mal à personne, j'ai été violent avec personne, je dors tranquille, j'ai la conscience tranquille là-dessus. Et par contre, ouais, j'ai fait chier les gens, j'ai fait des boulettes, voilà, mais j'ai fait de mal à personne. Et en fait, je crois que c'est aussi une des forces qui font la personnalité que j'ai, c'est que bah, j'ai été ce que j'ai été, j'ai enterré la honte aussi, j'ai enterré la culpabilité, j'ai enterré tout ça. Et par contre, aujourd'hui, c'est la façon dont on me regarde qui a changé. Et pour être un peu plus précis dans ma réponse, la réalité, c'est que les gens aujourd'hui, la personne qui... Enfin, si t'étais amené à me rencontrer, je connais pas le prénom de ce jeune homme, mais si on se rencontre un jour, c'est toi qui vas avoir du mal à croire que j'ai connu la rue, quoi.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et on a toujours... je pense qu'il posait aussi cette question-là dans est-ce que le regard de la société est dur par rapport à ça, est dur par rapport à cette maladie. Et parfois... c'est un peu comme quand on sort de prison, quand on sort, il y a une sorte de... C'est péjoratif. Est-ce que tu me suis là-dessus ?
Oui, mais je comprends la question et du coup, là, pour moi, la réponse est simple. Bon, là, on peut comparer les addictions et notamment celles de l'alcool ou de certaines drogues dures comme une prison, dans la mesure où tu perds toute la liberté d'agir et t'es coincé entre quatre murs. Et moi, je connais cette sensation et j'ai été alcoolique. Alors du coup, je veux bien faire le lien. Je le fais moi-même d'ailleurs. Mais le regard des autres, en fait, moi, le regard de la société sur les alcooliques, il me fait mal au cœur, quoi. Parce que, et là, je vais militer si on me pose ce genre de questions. Parce qu'en fait, est-ce qu'il y a des gens qui regardent des mecs qui ont un cancer comme si c'était des gens à blâmer ou... Enfin, le mec qui a le cancer, on va à son chevet et on pleure à côté de lui. Bah, le mec qui est alcoolique, les gars, allez à son chevet, pleurez avec lui et voyez comment on peut le soigner. Parce qu'aujourd'hui, on fait de la chimio, mais qu'est-ce qu'on fait pour un alcoolique ? C'est compliqué le soin dans la prise en charge d'un alcoolique. Du coup, comment on regarde la société ? Bah, moi, j'ai envie d'inverser non pas ce que subissent les gens qui sont touchés par la maladie, mais j'aimerais que les regards qui sont portés sur ceux qui sont porteurs de la maladie changent. Ouais. Voilà, arrêtez de regarder un alcoolique comme si c'était un pestiféré. Sortez dans la rue et militez pour qu'on arrête d'avoir des alcooliques. Et c'est ce que je fais à travers mon asso, c'est de la prévention. C'est-à-dire que je crois que la meilleure façon de soigner un mal, bah, c'est de ne pas le laisser prendre sa place.
Et puis, voilà. T'es un parfait exemple. Quand je vois, j'ai eu l'occasion de voir des photos, une de toi dans le mal. Et quand je te vois maintenant, je fais oui, effectivement, c'est pas du tout.
Ouais, et puis en fait, ça détruit. Enfin, je veux dire, on peut pas blâmer quelqu'un qui est détruit par quelque chose qui détruit. Arrêtez de mettre du poison dans votre verre, quoi. Je veux dire, moi, j'ai été passionné d'œnologie. J'étais capable de reconnaître des cépages, des millésimes, des assemblages dans du pinard. J'étais jury pour les Chardonnays du monde pour Monsieur Paul Bocuse. Voilà, je veux bien parler avec n'importe qui de saveurs, de flaveurs, de goûts. Stop, arrêtons de dire de la merde. Éthanol, ça détruit les gens. Voilà, donc arrêtons de détruire les gens. Je veux bien mettre la moitié du Languedoc-Roussillon au chômage. On trouvera des choses à faire, les gars. Voilà. Mais
oui, ça sera au moins la moitié du Languedoc-Roussillon, Patrick.
je suis un passionné d'œnologie, un passionné d'alcool. Je parfois, mon nez croise des odeurs là et me remonte des petits souvenirs, plein de molécules qui viennent chatouiller mon hypothalamus. Ouais. Mais stop, voilà, l'éthanol, ça nuit à la santé. Et voilà, à chaque fois qu'on prend une petite dose d'alcool, eh ben, on détruit un petit peu notre corps. Et malheureusement, il y en a, ils se font attraper par l'addiction. Et là, malheureusement, ça fait des dégâts. Et ça fait des dégâts à tout le monde. Voilà.
Avant de terminer l'émission, parce que je pense que c'est, on est à la fin, Un petit mot sur ton association. Donc, ton association s'appelle Résilio,
ouais,
qui finit par OH. Donc, résilience et en même temps maladie OH. Fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité. C'est marqué sur le t-shirt que tu es en train de porter.
Saint-Exupéry.
De Saint-Exupéry.
Ouais. C'est très modeste, c'est plein d'humilité. On va avec Mel, on va faire des podcasts pour cet été avec des sujets bien ciblés. Ils seront sur le site de Radio Escapade et on va continuer l'aventure avec ce projet et on va continuer notamment avec Résilio, c'est-à-dire donner un maximum d'informations sur la pathologie et je cherche des lieux pour faire des conférences et en fait de l'interaction et notamment...
À bon entendeur.
Ouais, à bon entendeur, voilà. Carrément, hein, ouvrons les possibles. Je voudrais trouver des partenaires pour travailler sur les bienfaits de l'eau dans le sport. Je voudrais mettre en place des projets éducatifs dans les collèges et lycées environnants pour sensibiliser. Et je voudrais essayer de dire aux gens d'arrêter de croire que... je voudrais ouvrir les yeux des gens en leur disant qu'il faut ne pas mettre de masque, être soi-même et profiter de la vie. Quoi. Voilà, il n'y a pas besoin d'un toxique pour aller s'amuser. Dans nos jeunes, là, ils courent vers les toxiques pour tous être les mêmes. Et c'est un fléau.
Soyez singuliers. On va terminer sur ces beaux propos. Merci à Fab, qui était à la régie. Merci Fab. Il a vraiment assuré sur les questions des micro-trottoirs. Merci Patrick.
Merci Mel.
Et merci à tous nos auditeurs de nous écouter. Ciao, ciao.